à 6h47. Les enjeux internationaux, bonjour à vous Thierry Garcin. Aujourd'hui nous partons avec vous pour l'Arctique et la vision chinoise du Grand Nord.
L'Arctique, les intérêts de la Chine dans le Grand Nord, donc le titre. Et notre invité est le professeur Za Daojiang, qui est professeur d'économie politique internationale à l'université de Pékin. Les traductions seront dues à Nicolas Champeau de RFI. Alors nous avons rencontré le professeur Za en janvier dernier à Tromsø en Norvège lors de la grande manifestation Arctic Frontiers, plus de 1400 invités de tous les horizons représentant quantité de disciplines. C'est ça qui était aussi très intéressant. Le thème retenu de cette année, climat et énergie. Alors les Chinois étaient venus en nombre, notamment 11 journalistes, et on peut le dire, qui travaillaient. L'analyse du professeur Za est d'autant plus intéressante que la Chine a développé chez elle des centres de recherche dédiés au pôle. Elle profite d'une longue pratique et d'une expérience reconnue au pôle Sud. En décembre 2013, son brise-glace avait évacué par hélicoptère les 52 passagers d'un bateau russe bloqué par les glaces, avant d'être lui-même, ce brise-glace, bloqué par les glaces, particulièrement épaisse, puisqu'il y avait 4 mètres d'épaisseur. Il parvint, ce brise-glace, par la suite, à se dégager. La Chine est intéressée par la route polaire Asie-Europe via le passage russe du Nord. Un cargo chinois effectué la traversée en août 2013. Et puis, depuis 2013 aussi, la Chine est observatrice au Conseil Arctique. Elle construit enfin un second brise-glace. Le professeur Za, d'abord l'approche globale.
From my point of view as a Chinese scholar,
de mon point de vue, qui est le point de vue d'un universitaire chinois, l'Arctique est confronté à 3 défis. Comme je l'ai indiqué lors de ma présentation aujourd'hui, le premier défi se rapporte aux questions de souveraineté, à la façon dont les États de l'Arctique font valoir leur souveraineté et aux méthodes qu'ils adoptent pour régler les problèmes qu'ils ont entre eux. Car les approches retenues pour régler les problèmes de souveraineté peuvent être riches en enseignements pour les relations entre les autres pays du monde. Le deuxième défi, bien sûr, est celui du changement climatique. Et je suis persuadé que ce défi peut aussi présenter un certain nombre d'opportunités. Il faut dire les choses, les voisins immédiats de l'Arctique, mais aussi des pays comme la Chine, vont pouvoir tirer profit de la fonte des glaces. Le vrai défi, ce n'est pas ce que l'on fait dans l'Arctique, ce sont les efforts que l'on entreprend loin de la région en termes de réduction des émissions de gaz carbonique. Et nous ne savons pas si la prédiction sur le réchauffement de 2 degrés est une prédiction scientifique crédible. C'est une prédiction, c'est un sujet qui fait l'objet de moult débats. Ceci étant dit, il n'y a rien de mal à tenter de réduire les émissions et à faire des progrès dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et cela vaut en particulier pour la Chine. Il n'y a rien de mal à s'engager sur ce terrain et ces efforts-là.
Diversification of energy consumption away from coal. Now, last but not least,
le changement climatique peut être envisagé comme prétexte pour se lancer sur le chemin de la diversification de la consommation d'énergie et des alternatives au charbon. Enfin, les gens parlent des ressources minérales, du pétrole et du gaz, de l'industrie, de la pêche, mais soyons honnêtes, la production globale d'énergie va augmenter. Et je l'espère, l'Arctique va devenir un producteur stable, contrairement à certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique, qui, eux, sont secoués par des guerres civiles ou par des changements de régime qui surgissent dans la brutalité. Donc, pour résumer, j'adopterai en ce qui me concerne 3 catégories de défis. D'abord, la gouvernance, ensuite, le changement climatique et en troisième lieu, les ressources.
Le professeur Za, lors de sa communication à Tromsø, avait intégré l'approche géopolitique. La question se pose donc de savoir si Pékin croit plus en la coopération qu'en la compétition en Arctique, compte tenu que les rapports de force interétatiques existent bel et bien dans la zone. Bref, qu'est-ce que Pékin attend de la coopération en Arctique ?
It does seem to me on issues like territorial ownership.
Il me semble, oui, que sur les questions de souveraineté nationale et sur les questions de l'exploitation militaire de l'Arctique, la coopération sera assez limitée. Il y aura une concurrence liée à la capacité. Et dans la région, je pense que l'on connaît déjà les acteurs de la compétition. Il y a les USA et l'Ouest, comme on dit, la Russie, et puis, selon certains, la Chine. Il y aura de la coopération dans des dossiers sécuritaires d'importance secondaire. Le changement climatique, les mines, l'industrie de la pêche, la pollution et le sauvetage, et la Chine sera un acteur. Mais comme je l'ai dit dans ma présentation, et c'est un point de vue qui vient de la Russie à l'origine, il y a des gens qui considèrent que l'Arctique pourrait devenir un jour un deuxième Moyen-Orient. Mais pour ma part, je ne pense pas que c'est ce qui va se produire.
Un important dossier à terme est d'ordre juridique. Les États-Unis, la Norvège et l'Union européenne considèrent que les passages, le passage canadien du Nord-Ouest et le passage russe du Nord, une fois libérés des glaces une partie de l'année, deviendront des détroits internationaux. La Russie et le Canada considèrent que ce seront des eaux intérieures. Il ne s'agit pas d'un antagonisme ou d'une rivalité, mais est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit plutôt de divergences ? Professeur Zha.
Je pense que c'est le dernier terme que vous venez d'employer, divergence, qui est le plus approprié pour qualifier les futures relations entre les États-Unis et la Russie. Et des divergences, il y en aura encore beaucoup entre les deux pays. Les États-Unis et la Chine sont deux puissances mondiales, même si certains rangent plutôt la Russie dans la catégorie des puissances régionales. Les États-Unis vont avoir besoin de la coopération de la Russie pour une large palette de dossiers, l'Iran, la Syrie et d'autres pays du Proche-Orient. Et franchement, il y a aussi une école de pensée aux États-Unis qui tend à envisager de façon positive la Russie dans le cadre plus général des relations avec la Chine. Les Russes, de leur côté, savent aussi se montrer pragmatiques. Ils ont besoin d'une relation de travail avec les États-Unis pour certains dossiers mondiaux. On va donc avoir ce cocktail de coopération, de concurrence, et dans le dosage, il y aura aussi de temps à autre de la confrontation. Mais la vraie compétition entre la Russie et les États-Unis ne se jouera pas sur le terrain diplomatique. La vraie compétition sera liée à l'approche de la Russie pour revitaliser son économie et accroître la cohésion sociale au sein de sa population. Les États-Unis ont ce même défi au niveau intérieur, mais il me semble que la situation aux États-Unis est bien plus saine, et c'est en partie grâce à la révolution du gaz de schiste en Amérique.
Reste à savoir quels peuvent être les intérêts premiers de la Chine en Arctique, avec quels instruments privilégiés, cela afin de promouvoir ce que le professeur Zha de l'Université de Pékin appelle l'intérêt national. Quelle priorité donc ?
Je pense qu'il y aura deux priorités. D'abord, la Chine suivra de près la façon dont les affaires de l'Arctique sont gérées. Il n'y a pas d'enjeu direct pour la Chine et nous n'avons pas notre mot à dire, mais nous pouvons beaucoup apprendre de l'interaction entre ces États sur les questions liées à l'Arctique. Et bénéfices plus tangibles encore, nous ne voulons pas être exclus. Ce n'est pas un dossier de notre ressort, bien sûr, mais nous voulons avoir les droits qui reviennent à tous les observateurs permanents. Et cela implique que nos entreprises puissent prétendre à se voir offrir des opportunités sur la base du mérite et de la capacité pour participer à l'exploration et à la production d'énergie, mais aussi pour avoir une participation dans les activités scientifiques et de recherche. Ce qui pourrait aussi aider nos entreprises à renforcer leurs capacités technologiques et leur permettre d'internationaliser leur expertise au niveau du management, en travaillant pas seulement avec les Russes, mais aussi avec les entreprises européennes et américaines dans la région de l'Arctique.
Apparemment, la Chine veut travailler en Arctique en profitant d'une certaine autonomie. On l'a dit d'ailleurs, elle construit un second brise-glace. Faut-il en déduire que Pékin recherche aussi l'influence dans le Grand Nord ? Professeur Zha.
I don't think so. Look, icebreakers, you can build it,
Non, pas vraiment. Écoutez, les brise-glaces, vous pouvez certes les construire et miser sur le fait que grâce à eux, vous augmenterez le passage de navires dans une zone et créer ainsi le besoin pour d'autres brise-glaces. Cela peut devenir un vrai service et un vrai marché, et en construisant un deuxième ou un troisième brise-glace, vous allez apprendre à accroître votre capacité industrielle et votre expertise dans le domaine de l'ingénierie. Bon, pourquoi pas? Mais de là à faire un lien direct entre les brise-glaces et l'influence de la Chine, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Combien de Chinois sont réellement érudits sur l'histoire de l'évolution des relations entre les pays de l'Arctique? Il n'y a pas de pays de l'Arctique, quelle que soit sa taille, qui va accepter, entre guillemets, une quelconque influence chinoise. Nous allons travailler avec eux, mais surtout sur la base de relations bilatérales. So we're going to work with them
and probably more on a bilateral basis. Professeur Za Dao Yong, qui est professeur d'économie politique internationale à l'Université de Pékin. Alors n'hésitez pas à écouter les émissions précédentes consacrées à l'Arctique, notamment celle du jeudi 29 janvier avec le professeur Martin Fortier, qui était canadien, et celle du jeudi 5 février avec l'ambassadeur de Norvège en France, Rolf Einar Fife. Et puis vous trouverez ces liens sur notre site franceculture.fr. Les émissions sont écoutables durant 3 ans, téléchargeables durant 1 an, franceculture.fr.
Merci Thierry Garcin. À demain.